Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe
et Marie-Lou.
Et aujourd'hui, c'est déjà le 15e épisode, ça va très vite. Et on a décidé de faire un petit topo là, sur les dés. Donc, on va parler de tout ça. Et aussi, comme d'habitude, on parle aussi de nos expériences de jeu, de notre magasinage et d'un projet québécois. Mais là, avant de commencer l'épisode, j'avais quelques petites nouvelles, des nouvelles par rapport aux jeux de société. Je voulais commencer par revenir là, sur... lors du dernier épisode, on avait une question, quel était notre jeu, le jeu qu'on attendait le plus pour 2017? Et juste après ça, j'avais re-regardé la liste là, sur BGG qu'il y avait, là, sur on pouvait faire des votes là, pour les jeux les plus attendus. Et j'étais tombé sur Charterstone de désolé pour avoir massacré le nom de Jamie Stegmaier, qui est un jeu là, qui va être de style Legacy, mais de placement de travailleurs où le plateau de jeu va se moduler comme dans un Legacy selon à chaque partie. Et donc on va rajouter des emplacements pour placer des travailleurs. Et à la fin, tout ça à la fin des 15-20 scénarios, je ne sais pas comment que de scénario total, mais le jeu va rester unique et on peut quand même continuer à le jouer. Donc, c'est pas un legacy qu'on va mettre à la poubelle après lorsqu'on a fini le jeu. Ça, je trouvais que c'était un concept vraiment très intéressant.
Oui, puis aussi, je voudrais rajouter par rapport à ce sujet-là des jeux qu'on attend le plus là, pour 2017, il y a aussi la chaîne YouTube A2Game qui ont fait une vidéo sur ce sujet-là. On vous invite à aller voir ça, c'était vraiment intéressant. Mm-hmm. Ils ont entre autres parlé de ce jeu-là dans leur vidéo, donc si le sujet vous intéresse, ben on vous invite à aller voir ça.
Oui, effectivement. Puis juste pour terminer avec Charterstone, comme je disais, là, ça vous donne un plateau final. Donc, chaque joueur va avoir... Ben, chaque personne qui a acheté son jeu à la fin de tous les scénarios va avoir un jeu unique. Donc, ça peut en même temps créer un esprit de revente de peut-être dans quelques années, quand tout le monde va avoir joué son jeu au complet, etc. Puis, il est un peu tanné, mais il y a un jeu unique qui peut revendre avec différents emplacements. C'est quand même intéressant, ça, j'ai hâte de voir comment ça va progresser dans le temps, là, ce jeu-là. Très intéressant, le Charterstone. Allez voir ça, là, ça. Je pense que ça promet là, pour 2017. Et une autre petite nouvelle. Vous savez, on apprécie le jeu là, Les Pieds de la Terre. On vous a dit souvent là, que c'était hors d'impression. Et j'ai vu passer qu'il va possiblement avoir une réimpression là, pour le jeu fait par Cosmos, l'édition Cosmos. Qui, je sais pas si ça va être juste en anglais, mais quand même, c'est un jeu qui n'a pas trop de langage dedans, là, puis les règlements sont quand même faciles à trouver en français. Donc, on voulait vous dire ça, là, que Les Pieds de la Terre va sûrement être en réimpression. Ce n'est pas encore annoncé officiellement, mais c'est quand même probable. Donc, si ça vous intéresse, ce jeu-là, je vous invite à surveiller ça.
Donc, on est maintenant prêt à vous parler de notre sujet principal d'aujourd'hui, qui est les jeux de dés. Et on a décidé de vous parler de ça parce que dans le dernier épisode, on avait mentionné qu'à Noël, on a reçu beaucoup de jeux de placement de dés. Puis on s'est rendu compte que dans notre collection, en général, on a beaucoup de jeux là, qui ont comme composante importante des dés. Donc, on va commencer avec des petits faits historiques que Jean-Philippe a préparés, des choses intéressantes à savoir.
Donc, j'ai préparé des petits fun facts là, un peu historiques pour tirer de Wikipédia. On s'entend, des fois, c'est pas toujours la plus grosse source Wikipédia, mais des fois, on a quand même des faits intéressants. Donc, ce que j'ai pu en tirer, c'est que c'est probablement l'origine vient des osselets, qui était un principe d'utiliser des os de cheville là, pour jouer, ben, pas aux dés, mais pour jouer à des jeux, et que les dés seraient originaires de ça, le dé traditionnel là, qu'on connaît là, à 6 faces. Et c'était difficile à dissocier à partir de quel moment c'était plus rendu qu'on joue aux dés par rapport aux osselets. Et ça date aussi de la préhistoire, donc c'est sûr que des fois c'est plus difficile à retracer là, les origines de tout ça. Et ça pointait aussi vers les origines plus asiatiques là, qu'on a commencé à jouer plus au dé. Si on saute un peu dans l'histoire, on vient à l'Empire romain, là, c'était quand même de quoi qui était très populaire. Dans l'Empire romain, il y avait beaucoup de jeux à l'argent avec les dés là, pour. Et il y avait aussi des joueurs professionnels là, qui disaient qu'il y avait des dés pipés là, qui faisaient en sorte que bon, ça tombait sur leur bonne face puis qu'ils pouvaient gagner plus souvent. Là, parce que joueur professionnel de dés dans ma tête, ça sonne. C'est un jeu de hasard, c'est pas possible, là, mais bon. Il n'y a pas de technique de lancer de dés, mais c'est sûr que c'était des dés qui sont truqués, qui sont pipés, ça peut aider pas mal. Donc ça, c'est un peu les petits fun facts historiques. Et là, si on retombe à aujourd'hui, ben là, on a parlé du fameux dé traditionnel qu'on appelle le D6, mais à partir des années 50, il y a quand même les dés à plusieurs faces, ben, autres faces. Donc il y a des D8 qui ont 8 faces, des D10, 10 faces, etc., des D12, des D20, qui ont été popularisés avec la venue des wargames, des jeux de rôle. On a des dés de différentes formes qui sont apparus, ben, en fait, pas qui sont apparus, mais qui ont été popularisés dans les années 50. Donc, c'est un peu mes petits fun facts historiques que j'avais à propos des dés.
Donc, en regardant notre collection de jeux et aussi les autres jeux qui existent sur le marché qui utilisent des dés, on s'est rendu compte qu'on pourrait les diviser en différentes catégories selon l'utilisation qu'ils font des dés. Donc, on pourrait commencer avec les jeux de dés purs. C'est des jeux dont l'élément principal du jeu et la mécanique principale, c'est le lancement de dés. Donc, on pourrait penser par exemple au Yahtzee, un jeu que pas mal tout le monde connaît où on lance des dés et on essaie de faire différentes combinaisons pour pouvoir gagner la partie. Et il y a aussi un autre jeu qu'on connaît qui s'appelle Can't Stop. C'est un jeu où on lance des dés pour pouvoir progresser sur différentes pistes. Et pour gagner la partie, il faut avancer trois pistes au complet. Puis selon les probabilités des dés, il y a différentes pistes qui vont être plus faciles ou plus difficiles à avancer que d'autres. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu où on pousse sa chance. C'est-à-dire que si on lance les dés puis on n'est pas capable de rien faire progresser, ben on perd notre tour et ça devient le tour de l'autre joueur. Donc en gros, c'est des jeux où on lance les dés et on essaie de faire quelque chose avec. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a aussi des jeux avec des lancers de dés, c'est-à-dire que le jeu en tant que tel, c'est plus complexe que juste lancer des dés, mais on va utiliser les dés pour pouvoir faire des combats ou essayer de résoudre des événements, des choses comme ça. Donc les lancers de dés, c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé dans les jeux de style Ameritrash, dont on vous a déjà parlé dans le podcast. Ça ajoute un élément de chance dans le jeu. Des exemples qu'on pourrait vous donner, il y a Zombicide, Descent, Robinson Crusoe, Risk et Access Analyze. Puis ce qui est intéressant dans ces jeux-là, c'est que souvent les dés, au lieu d'être des dés à six faces avec des petits points comme on est habitué de voir, ils vont faire quelque chose de spécial avec ces dés-là. Comme par exemple dans Zombicide, il y a différents logos qui sont sur les faces des dés, c'est pas juste des chiffres. Il y en a aussi qui peuvent être stylisés, donc on peut les adapter selon la thématique du jeu pour qu'ils soient plus attrayants.
Oui, effectivement. On pourrait rajouter aussi Pathfinder, là, si on veut parler des D8, des D10, des D12, là.
Ouais, un jeu qui utilise les dés polyèdres.
Oui, exactement. Et là, si on passe maintenant au jeu de placement de dés, on a parlé quand même dans d'autres épisodes, là, c'est une mécanique, moi et Marilou, on adore vraiment dans les jeux. C'est une mécanique de jeu où on va utiliser les dés comme des travailleurs. En fait, avec le résultat qu'on va tirer, on va pouvoir les placer sur certaines cases du plateau de jeu comme un plateau de travailleurs. C'est juste que les cases sont déterminées selon le chiffre sur notre dé. Il y a souvent aussi dans ces jeux-là des possibilités là, de modifier nos dés avec des tuiles modificatrices. Ça, c'est un élément important parce que ça permet vraiment de diminuer la chance reliée aux dés. Donc ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. On a des dés, mais c'est pas nécessairement un jeu de chance. Il y en a un peu, mais on a quand même vraiment beaucoup diminué avec tous ces aspects-là qu'on peut faire. Donc ça, c'est vraiment une mécanique très intéressante. Et les dés, des fois, on peut aussi les additionner ensemble pour aller à des cases plus intéressantes. Ça, c'est parfois dans certains jeux qu'on peut faire ça. Il y a aussi, pour parler des exemples, on a Kingsburg. qui, selon ce que j'avais déjà entendu, ce serait le premier jeu à avoir amené cette mécanique-là. Ce serait quand même à vérifier. Là.
Ah, okay.
Mais c'est ce que j'avais amené. C'est ce que j'avais trouvé, je crois, à Kingsburg, si je ne me trompe pas. C'est un jeu de 2007 ou 2008. Kingsburg est vraiment très intéressant, là, où on influence des personnages de la cour avec nos dés, justement, qu'on peut additionner. Et il y a aussi des tuiles modificatrices de plus 2 qui nous permettent, ou il y a aussi sur le plateau de jeu, des bâtiments qui nous permettent d'influencer de plus 1, moins 1 avec nos dés. Donc, on diminue vraiment l'aspect chance relié à nos dés. On a aussi The Castle of Burgundy, un autre jeu où, dans celui-là, c'est vraiment avec les chiffres de 1 à 6 qu'on peut faire des actions. Il n'y a pas d'addition de dés. Mais il y a des tuiles modificatrices aussi. Les voyages de Marco Polo, qui est un autre jeu encore là, qui est une mécanique, je pense qu'on peut aller à des endroits que des autres joueurs sont déjà allés, mais si on a des chiffres plus hauts ou moins hauts, fait qu'il y a vraiment des aspects différents là, pour les jeux de placement de dés. Et Cavern Tavern aussi, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, qui utilise cette mécanique-là. Bora Bora, qu'on a essayé, qui était lui plus un... On sélectionnait une action avec notre dé, selon le chiffre, mais il fallait pas être plus grand ou plus petit que l'adversaire, mm-hmm. Là, si je me souviens bien. Puis il y a aussi le jeu Alien Frontier que j'ai vu qui ressortait souvent là, dans mes recherches. C'est un jeu qu'on n'a jamais essayé. Et j'ai vu qu'il y a justement il est relancé là, sur Kickstarter, en fait une réimpression qui est relancée là, si vous voulez aller voir ça. Sûrement un jeu que je vais peut-être supporter. Toujours intéressant, les jeux de placement de dés. Et pour finir, les jeux de recrutement de dés, c'est une mécanique qu'on n'a pas encore essayé. Là. Un exemple de jeu, c'est Signory. En fait, un jeu de recrutement de dés, c'est qu'il va avoir différents pools, un groupement de dés qu'on va pouvoir aller justement recruter dans ce groupement-là et faire nos actions avec les dés en particulier qu'on va avoir sélectionné, des dés de différentes couleurs qui vont nous permettre de faire des actions reliées avec ces couleurs de dés-là. Mais là, je peux pas rentrer un peu plus dans les détails là, vu que c'est pas un type de jeu qu'on a encore essayé.
Oui, et pour terminer avec le sujet des dés, je voudrais ajouter qu'il y a des jeux qui existent, qui utilisent des dés qui sont plus de type social. Par exemple, on pourrait penser à Escape, qui est un jeu en temps réel avec des dés coopératifs. Mmh. Il y a aussi Fuse, qui est un peu dans le même principe. Là. C'est coopératif, on lance des dés, puis il faut essayer de désamorcer des bombes.
En temps réel aussi.
En temps réel aussi. Puis il y a aussi un jeu qu'on a essayé dernièrement, qu'on a eu à Noël, qui est Dungeon Fighter. C'est un jeu où on lance les dés sur une cible, donc c'est un jeu d'adresse avec les mm-hmm. dés qui est aussi coopératif. Et il y a un aspect social parce qu'on joue avec d'autres mondes, puis c'est drôle de voir les mm-hmm. gens lancer les dés de différentes manières. Là. Par exemple, des fois, il faut le mettre sur notre nez mm-hmm. pour le lancer, donc... ça ajoute un aspect vraiment ludique là, au jeu de dés. Il n'y a pas juste des gros jeux complexes qui utilisent des mm-hmm. dés. Il y a aussi des jeux plus de party social qui utilisent ça. Puis c'est toujours le fun.
Ouais, c'est Dungeon Fighter. J'avais vraiment pas pensé à celui-là. Mais c'est vraiment, on lance un dé, mais il faut le faire rebondir sur la table. C'est pas le lancer traditionnel qu'on connaît. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Hein, comme une autre mécanique de jeu de dés qui utilise des dés. Donc... on espère que vous avez apprécié ce petit topo sur les dés. Vous avez des commentaires ou suggestions là, par rapport au jeu de dés, ou vous avez d'autres fun facts ou n'importe quoi par rapport aux dés, écrivez-le en commentaire, là, puis ça va nous faire plaisir de lire ça puis de vous répondre ou quoi que ce soit. Et justement, si vous voulez nous rejoindre, Marilou, est-ce que tu peux nous dire comment on peut le faire?
Oui, donc on est sur Facebook. Le nom de la page, c'est Board Game Québec. Sur Instagram, avec le compte BoardGameQC. Notre site web, c'est le BoardGameQuébec.com. Vous pouvez écouter le podcast sur ce site-là. Et il est aussi disponible sur iTunes, sur Google Play Music, sur RZO, Balado Québec et Pod Québec.
Et également sur YouTube aussi, qui a quelques épisodes disponibles. Un jour, je vais tous les mettre. Un jour.
Et aussi les vidéos de déballage de Jean-Philippe. Il en met beaucoup en ligne ces temps-ci.
Oui, effectivement. J'ai déballé... j'ai presque tout déballé les cadeaux qu'on a reçus à Noël jusqu'à maintenant.
Et on passe maintenant à la section magasinage du podcast. Vous allez voir que on n'a pas beaucoup magasiné dans les dernières semaines avec tous les cadeaux de Noël qu'on a eus. On en a encore beaucoup à jouer, à essayer, mais Jean-Philippe a fait un petit achat. Je le laisse continuer.
Oui, un petit achat, puis vous allez comprendre un peu plus tantôt aussi dans nos expériences de jeu. J'ai acheté une des expansions pour Codex, en fait, qui rajoute deux nouvelles factions avec trois héros chacun. C'est l'extension Flagstone Dominion versus Black End Scourge. Donc c'est une expansion, c'est les bleus et les noirs, donc j'ai bien hâte d'essayer cette petite expansion là vu que j'ai commencé à jouer plus régulièrement là, avec un ami, et je vais en parler un peu plus tantôt dans nos expériences de jeu. Et aussi là, j'ai en vue là, j'ai dit à Marilou, je veux vraiment acheter de colonistes, et j'étais allé le voir un peu là, ça me titille un peu, mais bon, je vais attendre encore d'avoir essayé tous nos jeux avant d'acheter un nouveau jeu, mais ce jeu-là a l'air vraiment très intéressant, où on va construire notre colonie avec une espèce de plateau de sélection d'action qui ressemble un peu à un plateau de Suburbia là. Donc ça a l'air vraiment cool comme jeu.
Oui, puis un autre jeu aussi qu'on a en vue de plus en plus, je pense que c'est le jeu de Harry Potter, La bataille de Poudlard. Mm-hmm. Moi, ça fait longtemps là, que je veux l'avoir dans notre collection, puis dernièrement sur Facebook, il y a beaucoup de gens, des auditeurs du podcast ou des gens qui nous suivent sur Instagram, qui nous ont parlé de ce jeu-là, donc moi, il m'intéresse de plus en plus.
Oui, c'est vrai, je pense qu'on va pouvoir l'acheter prochainement. Ça a l'air très le fun. Un autre deck building de plus à notre collection à rajouter, mais c'est sûr que la thématique Harry Potter, je pense, c'est un must pour nous autres à avoir, là, vu qu'on aime vraiment cet univers-là. Là, c'est de quoi qu'on a grandi dans cet univers-là. Là. Moi, je me souviens d'avoir lu tous les livres beaucoup trop de fois.
Oui, c'est vraiment de notre génération. Puis si vous avez le jeu, puis vous avez des commentaires, là, on aimerait vraiment ça, savoir c'est quoi votre appréciation pour soit nous convaincre encore plus de l'acheter ou nous décourager. Là, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On aimerait ça le savoir.
Oui, effectivement. On va maintenant passer à nos expériences de jeu. On a trois jeux à vous parler. Moi, je vais vous parler de Codex, bien évidemment, et de Caverna. Et Marilou va vous parler de Terra Mystica. Donc, je vais commencer tout de suite avec Codex, qui, j'en ai parlé un peu dans le dernier épisode. Hein, je l'ai reçu justement à Noël. C'est Marilou qui me l'a donné. Et j'ai joué quand même déjà jusqu'à maintenant 12 parties, donc assez régulier dans mes parties. Codex est un jeu pour 2 à 5 joueurs. À date, je l'ai seulement joué à 2 joueurs, donc en confrontation. Il y a des versions avec plus de joueurs qui vont faire un peu un free-for-all. On peut attaquer tous les autres joueurs, en fait. Et ça va être celui dès qu'il y en a un qui meurt, lui qui a le plus de vie, c'est lui qui va gagner. Mais ça, j'ai pas encore essayé ça pour l'instant. C'est un jeu de David Serlin, de la compagnie Serlin Games, qui est sorti en 2016. Et à date, la durée moyenne là, des parties que j'ai eues jusqu'à maintenant, c'est environ 30 minutes. C'est sûr qu'on a enchaîné plusieurs consécutives, donc on n'a pas à replacer tous les éléments du jeu. Mais c'est quand même intéressant, là, 30 minutes, c'est quand même assez rapide. Et ça permet de jouer plusieurs parties dans une même soirée. Consécutive, bien évidemment. Donc, au niveau du fonctionnement, là, pour vous expliquer un peu plus en détail comment ça se joue, vous allez devoir sélectionner 3 héros parmi des différentes couleurs. Là. Il y a plusieurs factions, comme je mentionnais tantôt, avec l'extension qui rajoutait 2 nouvelles couleurs. Vous pouvez soit faire des combinaisons de couleurs, avoir par exemple un héros rouge, un héros bleu, puis un autre héros bleu. Mais ça va vous amener quelques contraintes durant la partie. Par contre, vous pouvez aussi avoir un deck de la même couleur, donc les 3 héros bleus par exemple, qui va vous permettre d'utiliser les cartes bleues spécifiques à chacun des héros, parce que chacun des héros va avoir des cartes spécifiques associées à lui que vous allez pouvoir jouer dans la partie. Vous commencez avec un paquet de départ qui est la couleur correspondante. Donc si vous avez les héros bleus, encore une fois, vous allez prendre les cartes de départ des bleus. Si vous avez un mélange de couleurs, par exemple bleu ou mauve, bleu et mauve, ben, vous allez choisir entre le paquet de départ bleu ou le paquet de départ mauve, qui ont différentes habiletés différentes. Là, chacun dans ce jeu-là, vraiment, les couleurs ont vraiment des habiletés différentes, des stratégies de jeu différentes qui sont vraiment intéressantes. Donc le but du jeu, comme je l'ai dit tantôt, c'est de détruire la base de l'adversaire. L'adversaire a 20 points de vie sur sa base. mais il y a différentes façons là, de se protéger, un peu comme si vous avez déjà joué à Hearthstone, vous avez un héros qui a un certain nombre de points de vie, je pense que c'est 20 aussi, mm-hmm. Vous allez jouer des unités qui vont permettre de défendre ou permettre d'attaquer l'adversaire. En gros, le jeu se joue en 5 phases dans un tour et on joue jusqu'à temps d'avoir détruit la base d'un adversaire. Et donc, premier élément que vous allez faire, ça va être de remettre à... En fait, vous allez avoir joué vos cartes. Si vous avez attaqué avec un personnage, vous allez devoir le taper ou le tourner sur le côté. Donc, première chose que vous faites dans votre tour, c'est remettre toutes vos cartes, redresser toutes vos cartes. Et ensuite, vous allez faire le upkeep, ce qui s'appelle si vous allez prendre l'argent que vous allez avoir accumulé avec vos travailleurs. Ensuite, il y a la phase principale du jeu qui, elle, vous permet, là, c'est vraiment là où vous pouvez vraiment tout faire les actions possibles, soit de jouer des cartes. Il y a un prix à payer, il y a un prix associé à cette carte-là. Il y a toujours, par exemple, par contre, une fatigue d'arrivée. Ça veut dire que lorsque vous jouez une carte, vous ne pouvez pas attaquer avec ce personnage-là, à moins qu'il y ait une habilité spéciale de... Je crois que dans ce jeu-là, c'est Haste. Donc, vous attaquez immédiatement. Vous pouvez attaquer immédiatement mm-hmm. avec lui. Sinon, vous pouvez le placer en défensive pour permettre de bloquer les attaques de l'adversaire au prochain tour. Vous pouvez aussi construire des technologies qui vous permettent de jouer des cartes de meilleure, de plus grande force dans les tours suivants. Ensuite, vous pouvez aussi construire des add-ons que vous ajoutez à votre base qui vous permettent d'avoir certaines habiletés spéciales. Vous pouvez aussi faire un travailleur qui est un élément important dans le jeu, c'est que vous commencez soit avec 5 ou 4 travailleurs et à chaque fois que vous ajoutez un travailleur, dans le upkeep, vous allez faire de l'argent selon le nombre de travailleurs que vous avez. Donc, c'est la façon de générer votre argent et de jouer des meilleures cartes parce que des cartes plus fortes, des fois, vont coûter beaucoup plus cher à jouer. Et il y a aussi où ça vous permet de jouer plus de cartes dans un tour. Donc, ça dépend de cet aspect-là. Et vous pouvez aussi attaquer avec vos cartes. Et finalement, vous pouvez aussi placer vos cartes en défensive sur la Patrol Zone qu'appelle, qui va obliger l'adversaire d'attaquer ces cartes-là avant de pouvoir attaquer votre base, à moins d'avoir des cartes avec des habiletés spéciales. Donc, après la phase principale, vous allez devoir discarter les cartes qui vous restent en main. Et ça détermine le nombre de cartes que vous allez pouvoir piger. Donc, si vous reste 2 cartes, vous les discartez et vous faites plus 2 à ce nombre de cartes-là. Et c'est le nombre de cartes que vous pouvez piger. Donc, vous allez toujours avoir un minimum de 2 cartes si vous avez 0. Mais c'est pas vraiment efficace. Le but, c'est d'essayer de pas jouer toutes ces cartes puis d'en avoir à peu près toujours 4 ou 5 dans nos mains. C'est maximum 5. Lorsqu'on tombe à 3 ou 2 cartes, là, ça devient quand même difficile de se relancer puis de pouvoir piger plus de cartes parce qu'on va toujours tout le temps un peu bloqué. Parce que si on a juste 3 cartes, ben puis on veut pas en jouer, ou faudrait pas en jouer pour pouvoir en repiger 5, donc ça devient un peu compliqué. Faut faire attention à ça au cours du jeu. Et la dernière action que vous allez faire dans votre tour, c'est la phase de tech qui appelle. Qui consiste à aller chercher 2 cartes dans votre cartable. Le cartable est constitué de toutes les cartes disponibles pour chacun de vos 3 héros qui sont associés à ces cartes-là. Et vous allez en choisir 2 que vous allez mettre dans votre discard, qui va donc revenir dans le jeu, dans votre paquet au cours de la partie. Donc c'est la façon de construire votre paquet qui est quand même assez particulière à ce jeu-là, qui est, ma foi, très intéressante. Puis je trouve que c'est vraiment l'aspect... Le plus, je pense, qui caractérise ce jeu-là. Et les cartables sont quand même très bien faits pour ça. Par contre, au niveau des cartables, là, j'ai acheté une extension, mais il n'y a pas de cartable qui vient avec ça. Donc, est-ce que je vais changer des cartes dans des cartables? C'est moins intéressant parce que c'est quand même long de sortir les cartes puis tout remplacer. Donc, probablement que je vais finir par juste utiliser une pile de cartes que je vais chercher dedans, là. L'ami avec qui je joue, il fait ça. Là. Il utilise pas les cartables, même s'il a acheté la version de luxe qui avait les 6 cartables. Il les utilise pas. Là. Ça fait un peu trop compliqué pour lui. Là. Fait que c'est au choix. Là. Mais c'est un beau concept, les cartables, mais peut-être pas utilisable à si long terme. Si tu veux aussi mélanger les couleurs, ben là, tu te ramasses à peut-être avoir 2 cartables, mais là, tu vas dire un peu à l'adversaire, ben là, je suis en train de piger dans mon cartable bleu. Fait que c'est sûr que je suis en train de prendre des cartes de mon joueur bleu, fait que c'est pas la meilleure solution non plus. peut-être la solution, je pense que je m'étais fait dire, c'est de un cartable où c'est des feuilles que tu peux décrocher d'un cartable, que là tu peux justement customiser un peu qu'est-ce que tu vas faire. Mais encore là, ça sera pas des emplacements qui sont à demi plastifiés, que c'est facile de sortir les cartes, c'est des complets. Puis là, c'est vraiment difficile de sortir les cartes dans ces papiers-là. Donc, c'est pas peut-être moins intéressant. Donc, peut-être d'y aller juste avec une pile de cartes puis fouiller dans ça. Donc, mais ce que j'aime bien du cartable, c'est qu'on voit vraiment tout d'une shot. Là. On voit vraiment sur notre feuille très bien qu'est-ce qu'on a disponible. Surtout quand on connaît pas le jeu, c'est quand même un aspect intéressant. Je peux passer maintenant aux qualités des composantes. Là, bon, le cartable, j'en ai parlé assez. Les cartes là, sont quand même assez bien. Mais là, j'ai protégé avec des plastiques protecteurs parce que il y a quand même beaucoup de gras qui s'accumulait là, sur les cartes à force de jouer avec. Donc ça, je trouvais ça moins intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les protéger. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne suis pas un amateur de plastique. Je trouve des fois ça glisse trop et ça vient tannant. Mais je vais voir ce que ça va donner. Il y a aussi, bon, les plateaux de joueurs sont très beaux. Il y a aussi, vous pouvez acheter des playmats, je sais pas comment l'appeler, mais en espèce de pas de caoutchouc, là, mais de...
Comme un tapis de souris. Là.
Ouais, c'est ça, comme un tapis de souris. Là, je sais pas c'est quoi le matériau, mais ça vient dans la version de luxe, si vous achetez la version de luxe. Dans la version, le core set qu'on a acheté, c'est un plateau en carton, qui est quand même très bien fait aussi. Je pense qu'on l'a utilisé... On a joué une fois, là, par exemple. Là. Je pourrais pas rentrer plus dans les détails, mais ça allait quand même très bien. Là. C'était pas moins bien que les playmats. Finalement, ben, si vous voulez voir un peu plus là, justement les composantes du core set, qu'est-ce que ça donne, la qualité des cartes, puis tout ça, ben, j'avais fait une vidéo de déballage. Vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là. Donc, pour mon appréciation, je trouvais le jeu là, vraiment... Il offre une rejouabilité vraiment excellente. Là, on peut jouer tellement de stratégies possibles qu'on peut faire. En fait, notre stratégie va aussi dépendre des couleurs de héros qu'on va choisir, des mélanges qu'on veut faire. Là, on peut vraiment faire une multitude de possibilités. Là, je pense que j'ai vraiment rien exploré, même après 12 parties. Là, j'ai juste joué à peu près les rouges 7-8 fois, puis les verts 4-5 fois. Puis les rouges commencent un peu plus à comprendre la stratégie, mais là je me rends compte peut-être qu'ils ne sont pas efficaces contre d'autres couleurs, mais c'est peut-être la façon de les jouer. Donc il y a vraiment une multitude de façons de jouer à ça, puis tu t'améliores à chaque partie, tu comprends un peu plus les stratégies à employer. Là, ça c'est vraiment un gros point fort de ce jeu-là. Comme je disais, les parties sont relativement rapides, là, aux environs d'une demi-heure par partie. Aussi, au niveau du design, je trouve les cartes sont vraiment très belles. Les personnages, les designs sur les cartes, c'est très beau, c'est très accrocheur. Vraiment magnifique à ce niveau-là. Puis j'avais vu un commentaire sur Internet d'une personne qui disait, parce que c'est pas tout le même designer qui a fait le même graphiste qui a fait les cartes. Puis il disait que des fois, il n'y avait pas de lien entre les dessins. J'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Là. Fait que moi, je les trouve vraiment très belles, très accrocheur. Des fois, il y a des... une espèce de un petit tigre vraiment très cute, il y a des cute animaux dans ça, c'est vraiment très très le fun là. C'est, je trouve ça ajoute au jeu quand on joue là, on découvre les cartes, ah, il est bien cool lui, il est vraiment beau. ça donne le goût d'un fois de l'utiliser ou quoi que ce soit là. Aussi un aspect vraiment intéressant dans le jeu, ben, c'est les niveaux des cartes. Comme je disais, vous pouvez construire des technologies niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis ça permet de jouer des cartes plus fortes. Le niveau 3, il y a seulement une carte par héros qui est possible, donc, mais c'est très difficile de construire son niveau 3 puis de ne pas se le faire détruire, mais cette carte-là est vraiment très puissante souvent. Donc il y a une stratégie différente. Les cartes de niveau 2 sont quand même assez très fortes aussi. Puis juste pour une petite anecdote de partie, lorsqu'on a joué rouge contre rouge, rouge c'est une faction qui est plus axée sur attaquer la base tout le temps. Puis ma stratégie c'était vraiment de juste utiliser les premières cartes. Je construisais même pas mon tech 1, tech 2, tech 3. Je utilisais juste mes cartes de base de magie qui attaquent directement la base, puis ça passe par-dessus la patrol. Fait que même si l'adversaire met des défenses, ben ça tu fais directement ta magie sur la base de l'adversaire. Fait que le but, c'est juste de basher sur sa base le plus vite possible avant que lui le fasse. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Ce que j'ai trouvé des fois, bon, j'avais joué le rouge contre le blanc, puis je trouvais que c'était quasiment impossible que je réussisse à le battre avec le rouge. Ça, je suis moins expérimenté, mais peut-être que ça arrive des fois, donc c'est de prendre ça en compte. Là, ça fait quand même partie du jeu qu'il y a peut-être des couleurs qui sont moins fortes contre d'autres, mais c'est ça, c'est, ça fait partie de l'expérience de savoir que si l'autre prend le blanc, ben, peut-être que je n'irai pas avec cette couleur-là. Puis, comme je mentionnais tantôt, là, la phase de tech où ce qu'on va construire notre paquet, je pense que c'est vraiment un aspect très intéressant dans ce jeu-là. Mon petit bémol, par contre, c'est justement la phase de tech. Autant que c'est le fun, mais autant que ça peut te prendre du temps à regarder. Puis là, c'est l'adversaire qui joue durant ce temps-là. Fait que tu vois pas nécessairement qu'est-ce qu'il fait. Fait que là, tu sélectionnes tes cartes. Puis là, tu sors de ton cartable. Puis là, tu vois, ah, qu'est-ce qu'il a fait à peu près. Il t'explique brièvement qu'est-ce qu'il a fait. Là, tu essayes de suivre. Donc, ça fait un petit bémol au jeu là, de pas être toujours capable de suivre ce que l'adversaire fait. Puis surtout quand on connaît pas les couleurs des factions de l'adversaire, des fois ça peut être plus difficile d'aligner sa stratégie. Puis là, tu te rends compte à un moment donné, quand tu fais une grosse attaque, que finalement, ben, j'avais pas vu cette carte-là qui faisait ça. Mais bon, on apprend au cours de la partie. Toujours moyen de demander à l'adversaire de nous montrer ses cartes. Là. Ça dépend de comment ça vous tente d'y jouer. Donc, globalement, là, c'est vraiment un jeu que je trouve très très bon. J'ai mis un 9 sur 10 jusqu'à maintenant. Là. C'est vraiment un jeu que j'ai vraiment le goût d'y rejouer tout le temps. Puis là, en ajoutant des nouveaux paquets, des nouvelles factions, ça va vraiment ajouter au jeu. Puis je vais pouvoir explorer différentes stratégies. Donc ça, je suis vraiment content d'avoir ce jeu-là. Je sais pas si Marie, tu avais des petits points à rajouter sur l'expérience qu'on avait eue ou t'as pas encore assez joué pour rentrer dans le détail du jeu.
Non, mais j'ai joué juste une partie. Je pourrais quand même dire que, étant habituée à jouer à Hearthstone, qui est un jeu vidéo là, de Blizzard qui utilise des cartes un peu similaires, là, je pense que c'était l'inspiration, mais c'est pas mal plus complexe que Hearthstone. Ça, c'est quelque chose à savoir. Les cartes en tant que telles, de ce que je comprends, on peut les jouer en défense ou en attaque. C'est pas la carte en tant que telle qui donne
Non, c'est ça.
la caractéristique, là. Comme par exemple dans Hearthstone, on a des cartes que c'est vraiment écrit dessus qui ont le pouvoir tente. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais ça veut dire que c'est de la défense. Ça protège notre héros. Dans Codex, il y a aussi des cartes qui ont un pouvoir similaire à ça. Si on les place sur. Dans le fond, c'est
La
pas la carte en
plateforme, ouais,
tant
c'est
que
ça.
telle qui a le pouvoir, c'est l'endroit où on
C'est
la
ça,
met. Donc si on met une carte à cet endroit-là, elle va avoir ce pouvoir-là, mais
ouais.
à la base, elle l'a pas.
Non, c'est ça.
Donc c'est quelque chose que ça m'a pris du temps à comprendre, là, qu'on pouvait placer des cartes puis avoir l'effet. Aussi, ce qui est différent avec Hearthstone, c'est qu'on construit notre deck au cours de la partie et non avant de jouer. Dans le sens qu'on fait comme un deck building, on va aller chercher des cartes au cours de la partie, on a le choix dans notre cartable, mais c'est pas nécessairement au hasard qui
Non,
vont
c'est ça.
sortir, c'est selon qu'est-ce qu'on a sélectionné avant. Tandis que dans Hearthstone, ben, on construit notre deck au départ, mais on sait pas à quoi qu'on va avoir accès dans la partie parce que ça dépend de qu'est-ce qui sort de notre paquet. Je trouve que c'est un jeu qui est pas aussi facile d'accès que Hearthstone, en gros, qui s'adresse plus à des gens qui vont jouer beaucoup puis qui vont connaître les cartes, parce que vu qu'il faut aller sélectionner des cartes dans la partie, si on les connaît pas, c'est plus difficile. Donc pour l'instant, je peux dire que j'ai apprécié, puis je pense que au fur et à mesure de jouer avec, je vais de plus en plus l'apprécier. Mais pour l'instant, je suis un peu perdue là
Ouais,
dans
c'est ça. Une partie, c'est vraiment.
qu'est-ce qu'il faut que je fasse là. J'avais joué les rouges, j'ai eu un peu de misère à comprendre. Mais au fil des parties, je pense que ça va s'améliorer. Puis je vais essayer aussi de découvrir les races une par une, là, de ne pas
Ouais,
me
non, c'est ça.
lancer dans toutes les couleurs, là.
Ouais, c'est ça. Mais c'est justement ce que j'ai fait. J'attends, là, j'avais une douzaine de parties, fait que j'ai joué un peu les deux couleurs après, ben, dans le core set. Puis là, j'ai dit, oh, j'aimerais ça ajouter une autre couleur pour voir un peu qu'est-ce que ça fait, puis peut-être faire des combinaisons après, là. Mais je pourrais pas dire que les verts, je les maîtrise vraiment non plus, puis les rouges, un peu plus. Mais juste contre rouge, contre d'autres couleurs, je suis un petit peu moins à l'aise parce que les rouges n'ont pas beaucoup de défensives. C'est vraiment, ils sont axés sur l'attaque, 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 l'attaque. Donc ça, c'est. Ça va être le fun à découvrir
Ouais.
de plus en plus, là. comme j'ai une énorme rejouabilité, on peut jouer, je pense, infiniment à ce jeu-là. C'est juste qu'on s'améliore à chaque fois. Donc, ça fait pas mal le tour du jeu Codex. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à ce niveau-là. Donc, je vais te laisser enchaîner avec Terra Mystica.
Oui, donc Terra Mystica, j'ai joué ma première partie hier soir et pour Jean-Philippe, c'était sa deuxième partie. C'est un cadeau qu'on a eu à Noël. Donc, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, sorti en 2012, créé à l'origine par des créateurs allemands. Je vais essayer de pas trop massacrer leur nom. C'est Elge Ostertag et Jens Drogmüller, quelque chose comme ça. Puis, l'édition qu'on a, c'est l'édition anglaise et française qui a été publiée par Zeeman Games et Philosophia. Sur la boîte du jeu, c'est inscrit que c'est une durée de 30 minutes par joueur. Donc, en gros, c'est un jeu dans lequel on incarne une faction et il faut essayer de la développer pour avoir le plus de points de victoire à la fin. Il y a 14 factions qui sont disponibles dans le jeu. Des exemples que je pourrais vous donner, il y a les sirènes que moi j'avais sélectionnées pour cette partie-là et les alchimistes que Jean-Philippe avait choisi. Il y a aussi, par exemple, des sorcières, des géants, des nains, des ingénieurs et plusieurs autres. Là, il y en a 14, donc il y en a quand même beaucoup. Juste une petite note, pour la première partie, dans le livret de règlement, il recommande de prendre les sorcières et les nomades pour une partie à deux joueurs. Mais on l'a pas fait. vous allez voir que j'ai eu un petit peu de misère. Peut-être que si... si on avait pris les races qui étaient recommandées, ça se serait mieux passé pour moi, vu que c'était ma première partie. Mais en tout cas, je vous recommanderais de suivre ce que le livret de règlement dit, mais nous autres, on a une forte tendance à ne pas respecter.
c'est mon erreur, c'est moi qui voulais. Puis je pense que ça aurait aidé, parce qu'il offre un placement de bâtiment de base au début, que ça aurait peut-être aidé, parce que je sais que tu as un de maisons, parce qu'on place deux maisons au départ. Là. Je sais que tu vas l'expliquer tantôt. Mais ça a peut-être moins aidé à ce niveau-là.
Ouais. Donc, ma petite note avant de commencer. le jeu se joue sur un plateau avec une carte du monde. Puis la carte est divisée en terrains. Il y a différents types de terrains. Par exemple, des plaines, des marais, des lacs, des forêts, des montagnes, etc. Puis chaque faction est associée à un type de terrain sur lequel elle peut construire des bâtiments. Par exemple, moi qui avais les sirènes, je pouvais construire sur les lacs. Et Jean-Philippe avait les alchimistes, il pouvait construire sur les marais. Pour étendre son territoire dans le jeu, il faut essayer de transformer des terrains qui sont adjacents pour la sorte qu'on a besoin pour construire. Là, il appelle ça « terraformer ». Ça veut dire que, par exemple, si j'ai un bâtiment construit sur un lac et qu'il y a à côté, il y a une forêt, je pourrais essayer de transformer la forêt en lac pour pouvoir construire un bâtiment là-dessus. Pour construire les bâtiments, ça prend des ouvriers et de l'or. Et dans le fond, à la fin de la partie, il y a des points de victoire qui sont alloués selon les terrains qu'on possède, qu'on a des bâtiments dessus à la fin de la partie. Le joueur qui en a le plus va faire un certain nombre de points, le deuxième joueur un nombre de points inférieur, et ainsi de suite. Il y a aussi la possibilité de construire des villes si on rencontre les conditions pour pouvoir en construire une. Je pense qu'il faut avoir 4 cases adjacentes avec des bâtiments qui totalisent une valeur de 7 ou plus là, pour pouvoir faire une ville. Puis quand on construit la ville, ça nous donne des points immédiatement, puis ça nous donne aussi un avantage là, pour le reste de la partie. Donc, c'est ce qui fait le tour pas mal pour ce qui se passe sur le plateau de jeu et qui va nous donner des points à la fin. Mais par contre, il y a aussi d'autres façons de faire des points dans le jeu. Je vous dis ça rapidement. On peut avancer certaines choses sur nos plateaux de joueurs. Par exemple, des pelles qui nous permettent de terraformer des terrains. On peut avancer le pouvoir des pelles. Et quand on réussit à l'avancer, ça va nous donner des points immédiatement. C'est la même chose avec les bateaux. Les bateaux, ça nous permet d'aller terraformer des terrains qui sont situés un petit peu plus loin. Donc, quand on avance les bateaux, ça peut nous donner des points aussi, il me semble. Il y a aussi des objectifs à chaque tour. Il y a des tuiles qui sont placées au début de la partie, puis à chaque fois qu'on commence un nouveau tour, on tourne la tuile, ça va nous donner un objectif à faire ce tour-ci, puis si on réussit à le faire, on va avoir des points. Il y a aussi un plateau des cultes. C'est un plateau qui est sur lequel tous les joueurs évoluent. Il y a différentes pistes où on avance avec des prêtres, et celui qui est le plus avancé dans chaque piste va faire des points à la fin. Et ensuite, le joueur qui est un petit peu moins avancé va en faire moins. Là, c'est le même principe que pour les terrains. Il y a aussi des tuiles bonus qu'on sélectionne à chaque tour, puis il y a certaines de ces tuiles-là qui vont nous permettre de faire des points selon, par exemple, les bâtiments qu'on a sur le jeu. Exemple, à la fin du tour, on va faire un point par habitation qu'on a sur le jeu. Et finalement, il y a aussi des tuiles faveur. C'est des tuiles ovales sur lesquelles il y a différentes choses qui sont indiquées. On les obtient quand on met des bâtiments sur le jeu, pour les temples et les sanctuaires. À chaque fois qu'on construit un bâtiment comme ça, on peut aller sélectionner une tuile et il y a certaines tuiles qui vont donner des points. Je pense que j'ai fait le tour des façons de faire des points dans la partie.
Oui.
Je sais pas si j'oublie quelque chose, là, mais
il y a beaucoup de possibilités.
Je vais maintenant vous expliquer comment se déroule le jeu. En gros, ça se joue en 6 tours, puis à chaque tour, les joueurs font des actions en alternance jusqu'à ce que tout le monde ait décidé de passer. Pour les actions, il n'y a pas d'ordre en particulier, puis on peut les faire autant de fois qu'on veut. À la fin de chaque tour, on retourne la tuile bonus qu'on avait pris au début du tour et on en prend une nouvelle qui va être comme une espèce d'avantage pour le prochain tour. Et on va changer l'objectif là, qui est accessible à tout le monde, qui va nous faire faire des points pendant le tour. On fait aussi notre revenu. Le revenu, dans le fond, c'est d'obtenir des ouvriers, de l'or et des prêtres. Puis c'est déterminé en fonction de qu'est-ce qui est présentement sur notre plateau de jeu. En fonction des bâtiments qu'on a placés, ça peut changer. Puis on commence un nouveau tour pour faire des nouvelles actions. Les particularités de ce jeu-là, que j'ai trouvé, ben il y a des factions et les factions sont pas juste là pour la thématique. Chacune a des pouvoirs spéciaux puis il y a des différences dans les plateaux de joueurs. Par exemple, les revenus de départ des différentes factions sont pas pareils. Il y en a qui ont des avantages. Par exemple, les sirènes, moi j'avais plus de bateaux à la base, donc je pouvais aller terraformer des terrains qui étaient un petit peu plus loin que d'autres factions. Puis il y a aussi des désavantages. Par exemple, pour les sirènes, bien, il y avait des types de bâtiments qui étaient plus chers à construire pour moi. Donc ça semble important de bien sélectionner au départ les factions qu'on joue en fonction de l'adversaire parce que c'est pas tout. Ça concorde pas nécessairement. Il faut faire attention à ça. Surtout à deux joueurs, je dirais.
Mm-hmm.
Ensuite, il y a aussi des bols de pouvoir qui sont sur les plateaux des joueurs. Dans le fond, c'est des jetons qui sont placés dans différents bols et qui progressent du bol 1 au bol 3. Quand on en a assez dans le bol 3, on peut les dépenser pour avoir des bonus, par exemple aller chercher de l'or, des ouvriers ou des prêtres. Faut bien les gérer parce que ça coûte quand même assez cher là, réussir à avoir des bonus avec ces jetons-là. Puis c'est quand même difficile aussi de les faire monter là, du niveau 1 au niveau 3. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut juste faire monter des jetons du niveau 2 au niveau 3 si notre niveau 1 est vide. Donc il faut vraiment essayer de prévoir comment ça va bouger pour pouvoir en avoir au maximum dans le niveau 3 et pouvoir les dépenser puis s'assurer qu'on va en avoir à chaque tour qui vont se retrouver au niveau 3. Ensuite, de ça, une autre particularité, c'est que selon la faction qu'on a choisie, il y a différents types de terrains qui vont être plus faciles ou plus difficiles à terraformer. Au départ, il faut s'assurer de sélectionner un endroit pour, dans le fond, on place au départ des habitations sur le jeu. Donc, il faut s'assurer d'avoir choisi un endroit qui va être facile à terraformer parce que sinon, on va être un peu mal pris. Puis c'est un peu ça qui s'est passé avec moi dans la partie. J'étais mal placé, les terrains qui étaient à côté de moi étaient très difficiles à terraformer, donc j'ai été un petit peu dans la misère à cause de ça. Puis une dernière particularité que j'ai trouvée, c'est que quand on place des bâtiments, ça affecte le revenu qu'on va faire au prochain tour. Puis moi, j'ai eu un petit peu de misère à cause de ça, parce que j'avais pas assez d'habitation, qui est le bâtiment de base placé sur le jeu. Fait que ça faisait que j'avais pas assez d'ouvriers. Puis vu que je manquais d'ouvriers, j'avais de la misère à aller construire d'autres choses. Je sais pas si j'oublie quelque chose, là. Dans ce jeu-là, il y a vraiment beaucoup de choses.
Non, je pense que ça fait pas mal le tour en général. Là. Puis encore là, c'est un peu mon erreur de ne pas avoir utilisé le setup de base. Comme je disais, il proposait des placements de bâtiments de base selon les factions. Donc ça a sûrement aidé à mieux comprendre le jeu. Bon, j'aime pas ça des fois suivre ces affaires-là. Des fois, je trouve que c'est moins intéressant. Mais finalement, dans ce cas-là, je pense que ça aurait été très, très bien. Ça enlève rien au jeu, je pense que. Désolé pour ça.
Donc, je peux passer maintenant à mon appréciation. J'aime beaucoup le design du jeu. Là, c'est vraiment très attrayant. Il y a plein de couleurs, des belles composantes de qualité. Les factions sont vraiment belles. Puis, je trouve ça intéressant qu'il y en ait autant dans le jeu. Je pense que ça offre une belle rejouabilité.
Ouais.
Au niveau du jeu, ben c'est sûr que j'étais un peu perdue au début, là. Il y a tellement de choses, c'est le genre de jeu que c'est pas compliqué à comprendre, mais il y a tellement d'options qu'on sait pas par où commencer, donc c'est juste ça qu'au début je savais vraiment pas quoi faire. mais après ma première partie, puis après y avoir pensé un peu, j'ai vraiment hâte de rejouer, je vais mieux savoir qu'est-ce qui est important au début, puis comment m'enligner. Par contre, pour les bols de pouvoir, là, Jean-Philippe m'avait dit « Ah, tu vas voir, c'est vraiment intéressant les bols de pouvoir », mais j'ai trouvé que ça jouait pas un rôle si important que ça. Ça donne des bonus, mais en tout cas, pour la race que j'avais, on dirait que c'était pas essentiel. Je sais pas s'il y a d'autres races là, que c'est vraiment important de focusser là-dessus, ça serait à voir. Bon, un autre commentaire, j'aurais dû commencer par une faction qui était recommandée là, pour la première partie, mais je ne savais pas. Mais j'ai quand même apprécié, puis ça n'a pas été si catastrophique que ça. Là. Je me suis sentie toujours dans la misère, mais en réalité, c'était pas si pire. Là. On a fini, je sais pas combien qu'on avait de points d'écart, mais c'était pas trop pire.
Ouais, moins de 20 points, c'était pas si pire que ça. Malgré tout, là, tu sais, puis pour revenir au bol de pouvoir, je pense qu'au fil des parties, peut-être qu'on va être mieux capable de gérer, puis là, on va trouver, parce qu'il y a quand même des actions très fortes sur le plateau de jeu qu'on peut aller faire avec les pouvoirs. Je pense que ça va peut-être qu'on va trouver la force de ça. Puis aussi, on n'a pas utilisé l'option de sacrifier un pouvoir pour en déplacer un dans le bol 3. Je sais pas si tu venais de ce petit point-là, mais ça, c'est quand même intéressant aussi à utiliser, je pense. Mais là, on n'était pas assez expérimenté pour dire que ça valait la peine.
Ouais. Et pour cette mécanique-là, ça m'a fait penser un peu à Trajan, là. Des espèces de bols où on déplace des jetons. Puis dans Trajan, ça affecte les actions qu'on peut faire. C'est vraiment plus essentiel au jeu, tandis que dans celui-là, c'est un peu... En tout cas, j'ai trouvé pour ma première partie que c'était plus secondaire, mais ça ressemble un peu à ça. Puis aussi au niveau de... tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, je trouvais qu'il y avait quand même une similitude entre ces deux jeux-là, là, beaucoup d'options. La durée de jeu était vraiment raisonnable, puis c'était quand même conforme à ce qui était écrit sur la boîte. Là. Je pense que ça nous a pris un petit peu plus de temps, parce que moi, j'avais jamais joué. Puis il y a un tour que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à décider qu'est-ce que j'allais faire, parce que j'étais un peu mal pris. Mais pour la durée de jeu, je trouve qu'il y a vraiment une belle complexité, puis j'ai bien aimé ça à deux joueurs. Donc c'est ça que je peux dire pour ma première partie. Toi, Jean-Philippe, c'était ta deuxième partie. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben ça, ma première partie date déjà de un an, puis ça fait quand même... on dirait que j'avais pas de grands souvenirs du jeu, mais je me souviens que j'avais vraiment aimé ça. Puis comme toi, la première partie, t'es un peu... tu sais pas trop où tu t'en vas, t'essayes des affaires, c'est un peu mélangeant. Puis là, deuxième partie, comme ça, ben vu que j'avais lu les règles aussi, je trouve que ça aidait, parce que la première fois que j'avais joué, c'était pas moi qui avais lu les règles. Puis souvent, des fois, ça me mêle un peu plus. Là, j'aime ça quand c'est moi qui lis les règles. Mais grosso modo, là, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. J'ai tellement hâte d'y rejouer. Là. C'est vraiment le fun. Je trouve justement le fait qu'il y ait juste 6 tours, c'est quand même assez rapide. Là. Faut que tu te planifies d'avant, tu essaies de construire, tu essaies de faire des liens avec tes villes. Là, dans le jeu, j'ai essayé de faire 2 villes, puis après ça, les rejoindre avec un pont. Comme ça, ça fait une grosse ville. Ben, ça te permet de faire 2 villes, mais ça te permet d'avoir plein de bâtiments adjacents pour les points de finale. Je trouvais ça, c'est vraiment très très le fun comme jeu. Comme tu dis, avec les factions, il y a 14 factions différentes. Ça va vraiment aider à la rejouabilité, à choisir d'autres factions justement. Il y a aussi l'extension qui rajoute le feu puis la glace. Donc d'autres. Ah, puis c'est vrai, lorsque j'avais joué avec l'extension, en fait, lorsque j'avais joué ma première partie, c'était avec l'extension qui offrait un plateau recto verso. Si je me souviens bien, qui changeait la map selon le nombre de joueurs. Fait que ça, je pense que ça pourrait être un ajout intéressant. Je pense qu'il y avait une configuration de cartes qui était plus adaptée pour deux joueurs.
Ok.
De mémoire, là, je ne vais peut-être pas dire. Ça serait à revérifier.
Ouais, ça serait intéressant à essayer parce que c'est sûrement ça. Qu'on va jouer beaucoup à deux joueurs.
Mais je pense que c'est un jeu qui pourrait quand même. Ben, je sais pas à quel point familial, c'est quand même assez complexe. Peut-être dans les premières parties, là, c'est peut-être pas optimal de jouer en famille, je sais pas, ça serait à voir.
Ben, je pense que l'âge qui est écrit sur la boîte, c'est 14 ans.
14 ans et plus.
Là, fait que plus avec des ados.
Ouais, non, non, non. Non, mais je parle en famille. Quand je parle en famille, je parle avec mes parents,
ah, okay.
des trucs comme ça. Là. Mais c'est vrai que, ouais, niveau familial, ouais, 14 ans et plus, ça joue pas avec des enfants, ben, genre, ça, c'est sûr. Ouais, des ados plus, comme tu disais. Parce qu'il y a quand même une bonne complexité, faut quand même réfléchir beaucoup à ce qu'on veut faire, puis planifier nos actions en conséquence avec les tuiles de points. Ce tour-là, ça vaut plus de points placer des maisons, fait que ça c'est intéressant. Parce que c'est les mécaniques qui vont nous faire faire des points, parce qu'on sait qu'à la fin de la partie, il n'y a pas énormément de points qui se jouent, c'est vraiment avec les combinaisons de villes plus les cultes, mais après ça, il n'y a pas d'autres points, c'est les points qu'on fait dans la partie. Très content, façon générale du jeu, j'ai vraiment hâte d'y rejouer.
Moi aussi, j'ai bien hâte de rejouer à ce jeu-là, Terra Mystica, et c'est pas mal ce qui fait le tour de nos impressions pour cette partie-là qu'on a jouée hier.
Et je vais conclure nos expériences de jeu avec le jeu Caverna, qu'on a joué également, là, je crois, c'est la semaine dernière. C'est un jeu pour 1 à 7 joueurs, sorti en 2013. C'est un jeu de Yui Rosenberg, je sais pas comment le prononcer, plusieurs façons de le prononcer, on dirait. Plus j'écoute de monde en parler. C'est un jeu, on a l'édition de Philosophia qui est en français. Donc, assez intéressant pour ça, pour jouer justement en famille, là, d'avoir en français, parce qu'il y a un peu de texte sur le jeu. J'ai joué deux parties jusqu'à maintenant, une avec mes parents à 3 joueurs, donc ça c'était très intéressant, et une avec Marilou, donc à 2 joueurs. Et la durée moyenne, ça a été 2 heures environ la partie. Ça inclut pas la mise en place parce qu'elle est un peu longue. Ça, je vais revenir tantôt. Au niveau du fonctionnement du jeu, grosso modo, le but est d'avoir le plus de points d'or à la fin de la partie. C'est ce qui fait en sorte que lui qui en a le plus est le gagnant. C'est un jeu de placement de travailleurs. En fait, nos travailleurs, ça va être des nains qu'on va sélectionner des actions sur le plateau de jeu. Les actions qui sont disponibles sont variables selon le nombre de joueurs. Donc, les plateaux sont modulables selon si on est 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Il y a toujours à chaque ronde, il va y avoir une nouvelle action qui est disponible sur le plateau de jeu. Les actions sont assez prédéterminées. En fait, les 3 premières rondes, il y a 3 cartes qu'on va mélanger. Donc, à chaque partie, on sait qu'il va y avoir ces 3 cartes-là, ces 3 actions-là disponibles. On ne sait pas dans quel ordre. Et c'est la même chose pour les actions 4 à 6. 7 à 9 et 10 à 12. Il y a aussi dans le jeu, il y a des cases qui accumulent des ressources qui permettent, lorsqu'on va y aller, de ramasser toutes les ressources qui sont disponibles. Et parce que c'est pas toutes les actions qui vont être utilisées à chaque tour, il y en a que ça vaut la peine d'attendre. Mais il y a aussi un petit aspect stratégique d'y aller au bon moment pour pas qu'un autre joueur y aille avant nous. Il y a aussi le but du jeu, le but qui va nous faire faire le plus de points d'or, ça va être de développer nos champs où on va cultiver des légumes et du foin, et aussi d'élever des animaux, des bœufs, des ânes, des sangliers, des moutons. Il y a aussi notre caverne, en fait, on a notre aspect pâturage à l'extérieur, puis on a notre caverne où on va développer des mines, aussi des aménagements avec des tuiles. On va aménager notre caverne, puis ça va nous donner des points de victoire aussi, des points d'or à la fin de la partie. Il y a deux vraiment possibilités dans le jeu. Ben, en fait, il faut faire les deux parce qu'il faut remplir le plus de cases possible. Mais il y a différentes stratégies quand même qu'on peut utiliser. Là, vraiment, en fait, une multitude de stratégies qu'on peut utiliser. Un autre aspect vraiment intéressant dans le jeu, c'est qu'on peut armer nos nains. Donc, on va les équiper d'armes qui vont pouvoir aller faire des quêtes pour aller récolter des ressources, des aménagements, des animaux, etc. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant et à ne pas négliger dans le jeu, d'armer nos nains et d'aller faire des quêtes. Le jeu se joue en 12 rounds, seulement 11 rounds à deux joueurs. Il y a des phases de récolte dans le jeu et de reproduction après certaines rounds. Il y a des fois qu'il n'y en aura pas non plus. Il y a une tuile rouge qui vont être placées au hasard. Trois tuiles rouges qui, lorsqu'on tire la première, par exemple, il n'y a pas de récolte. La deuxième, il faut payer seulement pour les nains. Puis la troisième, ben, je pense qu'on choisit soit si on récolte nos champs ou soit on reproduit nos animaux. Donc il y a différents éléments comme ça dans le jeu. Et lorsqu'il y a des phases de reproduction, ben, de récolte, en fait, on va pouvoir récolter nos champs et il va falloir payer pour les nains qu'on a en notre possession. Donc deux nourritures par nain qu'on a et une nourriture pour les enfants qu'on a fait. Parce que dans le jeu, il y a possibilité d'avoir plus de nains en faisant des enfants. Ça, c'est quand même un concept intéressant pour aller chercher plus de travailleurs. Puis, donc, il faut vraiment dans le jeu développer une stratégie pour nourrir nos nains parce que ça va arriver vite les phases de reproduction. Puis, il faut vraiment se bâtir une mécanique. Soit on produit vraiment sur nos champs, ça nous permet de payer la nourriture. Soit on fait beaucoup d'animaux qui vont nous permettre de les tuer pour faire de la nourriture. Il y a toutes ces mécaniques-là qu'il faut penser dans le jeu, puis en plus faire des mécaniques, faire des stratégies pour faire des points aussi. À la fin, c'est pas juste de payer nos nains non plus. Donc, grosso modo, c'est un peu ça qui fait le tour du jeu, là. Je passerai pas au tour des actions possibles parce qu'il y a une multitude d'actions, mais c'est vraiment un jeu où on va sélectionner nos actions pour faire nos pâturages, faire nos animaux, récolter des champs, améliorer notre caverne, développer notre caverne. Puis aménager notre caverne pour faire des points de victoire, des points d'or à la fin. Au niveau de la qualité des composants, c'est un jeu avec une quantité industrielle de pièces en bois d'excellente qualité. Là, c'est vraiment un jeu au niveau de la qualité, c'est numéro 1. Le prix va avec, ça c'est bien entendu. Mais la boîte est pesante avec du. Du, tous les plateaux de joueurs sont vraiment très bien épais avec toutes les tuiles d'aménagement, le carton, tout est vraiment super au niveau de la qualité, là, il n'y a rien à reprocher à ce niveau-là. Le design est quand même très beau aussi, un peu, pas cartoonesque, mais un peu dans ce style-là. Il n'y a pas énormément de design dans le jeu, là, mais quand même très bien aussi. Et les règlements sont très clairs, là. Ça, c'est un point très positif au jeu, c'est quand même très facile à expliquer comme jeu. En général, au niveau de mon appréciation, là, c'est vraiment un bon casse-tête. Le temps passe très vite quand on joue à ça, là. On est tout le temps en train de penser, bon, est-ce que je vais faire telle action ce tour-ci? Parce que, comme je disais, on a juste deux nains au départ. Enfin, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on a deux nains au départ. Puis on va essayer d'en avoir jusqu'à un maximum de 5. Ça va nous permettre d'avoir plus d'action. On n'est pas obligé non plus. On peut jouer avec juste deux nains toute la partie, mais ça risque d'être difficile. C'est toujours ça à penser. Il y a une excellente rejouabilité dans ce jeu-là parce que justement, il y a des tonnes de possibilités. Les actions des adversaires vont quand même influencer sur ce qu'on peut faire dans un tour. Donc, ça peut influencer sur la stratégie, repenser à certaines choses, certaines actions qu'on va faire dans un tour. Comme je disais, c'est très facile à expliquer. J'ai réussi à l'expliquer à mes parents. Ça a vraiment très bien été. Puis, au cours de la partie, vu que c'est un jeu où on sélectionne des actions, donc on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, si tu vas là, ça fait ça. Si tu vas là, ça fait ça. Donc, c'est quand même facile à comprendre. C'est sûr qu'au niveau d'instaurer des mécaniques pour bien nourrir ses personnages, ses nains, ça peut être peut-être plus difficile lors de la première partie, mais c'est quand même très facile à comprendre. Ça joue quand même bien. Puis peut-être lors d'une deuxième partie, ben, ça va être plus facile de savoir qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce qui est plus intéressant, puis de ne pas faire des actions qui sont inutiles. Je trouvais aussi qu'il était quand même très bien balancé à trois joueurs, deux joueurs. C'est sûr que j'ai pas essayé à plus que ça, mais les deux façons, deux et trois joueurs, c'était vraiment très bien comme jeu. Setup est un peu long, là, la mise en place du jeu, c'est un peu long, puis le ramassage aussi, mais bon, il y a tellement une quantité industrielle de matière. Les sacs dans ce cas-là sont très utiles de bien tout démêler parce que ça va beaucoup plus vite là, pour tout faire la mise en place du jeu. Puis il y a aussi une version solo dans ce jeu-là que c'est sûr que je vais essayer prochainement. J'ai hâte de voir, j'ai entendu des bons commentaires. Donc c'est certain que je vais l'essayer. Jusqu'à maintenant, là, j'y mettrais une note de 9 sur 10 pour moi. C'est un jeu que j'ai vraiment le goût d'y rejouer, hâte d'y rejouer. Vraiment très très bon. Vraiment hâte encore là d'y rejouer. Toi Marie-Lou, on a fait une partie ensemble. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as retenu de ton expérience avec Caverna?
Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la partie qu'on a jouée. Comme tu dis, ça a passé vraiment vite. Je me souviens plus trop combien ça a duré de temps, mais il me semble que c'était pas excessif. Moi, ça a du bon sens. C'est le même créateur et à peu près la même thématique que le jeu Fields of Arl qu'on a déjà dans notre collection, là, qui est un jeu aussi d'agriculture là, où on développe notre ferme. Mais j'ai vraiment plus aimé Caverna parce que justement il y a deux côtés à gérer. Il y a le côté ferme, mais il y a aussi le côté de la caverne avec les nains qu'il faut nourrir puis qu'il faut aussi planifier la naissance. Je trouvais que c'était un aspect intéressant. Puis aussi les améliorations de cavernes qu'on peut aller chercher qui nous donnaient différents avantages ou qui allaient nous faire faire des points en fin de partie. Puis justement, en parlant de tout ça, ben je pense que la première partie, c'est un peu exploratoire, là, essayer de comprendre comment ça marche le jeu, puis aussi d'apprendre à connaître c'est quoi les améliorations de cavernes qui sont disponibles. Ouais. Parce que je pense que pour être capable de bien s'enligner dans ce jeu-là, faut vraiment bien connaître les tuiles qui pourraient nous être utiles. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix de tuiles, puis c'est ça, tout dépendant de la stratégie qu'on veut utiliser, il y en a qui peuvent être vraiment importantes à aller chercher. Donc, au fur et à mesure qu'on apprend à les connaître, je pense qu'on va être meilleur.
Ouais, vraiment.
Il y en a tellement. Ça va prendre moins de temps à jouer encore. Là.
Ouais.
Donc, c'est ça, j'ai bien aimé, puis j'ai vraiment hâte d'y rejouer pour essayer d'autres stratégies. Là.
Pour revenir aux tuiles, ça me fait penser dans la partie, j'essayais tellement d'aller chercher plein de tuiles, qu'à un moment donné, là, je planifiais, là, je vais aller chercher celle-là, quand j'arrive, j'apprends. J'ai plus de place dans ma caverne, je peux même pas la placer. Fait que j'ai comme trop focusé sur les tuiles, ça me faisait faire beaucoup de points cette tuile-là, puis j'avais tout préparé en conséquence, je me suis rendu compte que j'avais même plus de place dans ma caverne. C'était pas très très bon de ma part, mais ça, les tuiles sont vraiment très intéressantes dans le jeu, mais comme dit Marie-Lou, faut les lire d'avance, parce que il y en a beaucoup qui peuvent être intéressantes pour nous aider au début dans la partie, puis d'autres qui vont nous donner des points en fin de partie, puis ça peut nous aider à focusser sur une stratégie ou un autre.
Oui, puis ils sont quand même pas si faciles que ça à aller chercher, ça prend beaucoup de ressources pour celles qui sont plus intéressantes, fait qu'il faut planifier des fois plusieurs tours à l'avance pour aller les chercher, fait que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut bien les connaître, parce que des fois ça peut prendre 2-3 tours pour avoir les ressources nécessaires pour aller les chercher, fait que... Faut vraiment avoir des objectifs à court terme en tête là, quand on joue à ça, parce que ben court et long terme.
Ouais, effectivement.
Pour choisir nos actions puis tout ça.
Donc ça fait pas mal le tour pour Caverna. Un jeu excellent. Là. Il est pas dans le top 10 de BGG pour rien, ce jeu-là. Donc ça fait le tour aussi de nos expériences de jeu pour cet épisode-ci. Pour le projet québécois qu'on a à vous présenter, c'est le jeu Kiwetin, qui est un jeu fait par deux personnes de Montréal qui ont lancé le Kickstarter assez récemment, qui avait un objectif de 15 000 $ et là, ils sont déjà deux fois dépassés ça, sont presque 30 000 $ là, au moment où on vous enregistre l'épisode. La campagne se termine le 17 février. Pour revenir au jeu, là, Kiwetin, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs de 10 à 20 minutes par partie, donc un jeu très rapide. C'est un jeu, c'est une course d'esprit dans une forêt où il y a des tuiles qu'on va placer au début de la partie qui vont modifier le parcours. Donc chaque partie va être différente. C'est un jeu qui est qualifié d'à peu près 65% chance, 35% stratégie, parce qu'il y a des cartes de runes qui permettent de modifier certains aspects dans le jeu. Ça a l'air vraiment très cool, là. Un petit jeu, un petit filler, vraiment très intéressant. Le design est vraiment magnifique, là. C'est très beau ce jeu-là, avec des belles petites figurines pour représenter chacun des esprits. Si vous voulez un peu plus de détails, là, il y a Professeur Borgain qui a fait une vidéo explicative avec le créateur du jeu pour montrer comment ça se jouait. Très bien fait comme petite vidéo qui dure à peu près une dizaine de minutes. Donc j'invite à aller voir ça. Son prix, c'est 35$ plus 15$ de frais de livraison pour un 50$ canadien. Donc ça tourne autour de ça pour ce jeu-là. On vous invite donc à aller voir la page Kickstarter du jeu Kiwetin pour encourager les projets québécois.
Donc, on va terminer l'épisode en répondant à une question d'une auditrice qui nous a été adressée sur Facebook par Edna Crabapple. Elle nous demande, est-ce que vous êtes des grands consommateurs d'extensions de jeux?
Je peux commencer à répondre, mais on peut répondre un peu en même temps. Je pourrais pas dire qu'on achète beaucoup d'extensions. Vite comme ça, je regarde dans la collection, puis on n'a pas énormément. Je crois que ben, dans Pathfinder, qu'on a des Adventure Decks, mais en fait, ils sont venus dans le jeu qu'on l'a acheté parce qu'on a acheté usagé. On n'a pas racheté encore d'extension, mais en fait, c'est des aventures. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'extension. On a acheté l'extension pour les poilus, qui est très intéressante, mais on n'a pas énormément. Là. Vite comme ça, on joue souvent le jeu de base. Assez, mais encore, je pense que tu sais, pour acheter une extension, il faut peut-être un peu plus jouer avec le jeu de base, puis on essaie de jouer nos jeux jusqu'à temps qu'on soit rendu, ben ok, là, ça prendrait l'extension, et non d'acheter l'extension dès qu'elle sort. Là.
Ouais, c'est ça, c'est très très rare qu'on fait ça, là, acheter l'extension avec le jeu de base, on attend toujours d'avoir fait le tour un peu, puis de vouloir prolonger l'expérience. Je sais qu'on en a acheté une pour Legendary qu'on n'a pas encore essayé, ouais, qui est l'extension vrai. Deadpool, mais tu sais, c'est un peu comme Pathfinder. On ajoute, dans le fond, un deck de cartes dans le jeu pour avoir une autre expérience. C'est pas vraiment une expansion là, au sens classique du terme.
Pour Seven Wonders, on l'a acheté celui Pantheon.
Oui, parce qu'on avait joué en masse au jeu de base. Ouais.
Fait que c'est vraiment, je pense... Ce qui nous fait acheter une extension, c'est le fait d'avoir assez joué au jeu de base pour se dire que ça vaut la peine d'acheter une extension. Même si des fois, je regarde là, dans Clash of Cultures, supposément que l'extension est un must parce que ça ajoute les civilisations qui donnent des pouvoirs différents à chacun des joueurs, tandis que dans le jeu de base, t'as pas ça. Tout le monde a la même civilisation, en fait. Donc, mais on l'a pas encore acheté quand même parce qu'on n'a pas assez joué encore à Clash of Cultures.
Oui, il y en a plusieurs qu'on a notre œil dessus puis qu'on se dit qu'on va les acheter quand on va être rendu là. Exemple, Mage Knight.
Ouais.
Il y a des extensions qui ont l'air vraiment intéressantes. Il y a aussi...
Il y a Andor aussi, là, que moi je pense que celui-là, ça serait vraiment très intéressant lorsqu'on va avoir passé toutes les missions.
Oui, c'est ça que je voulais dire. Andor, dans le fond, ça va vraiment prolonger le jeu parce que ça va ajouter des nouvelles légendes à faire. Fait que ça va être comme essentiel quand on va être rendu là, parce que sinon, on serait obligé de refaire des missions qu'on a déjà faites. Là, ça nous donnerait des nouvelles quêtes à faire.
Ouais, effectivement. Donc, je pense que ça répond pas mal à la question. On n'est pas des gros acheteurs d'extensions.
Oui, c'est pas mal ça. Puis, ben on profite de l'occasion pour vous poser la question. Est-ce qu'il y a des extensions de jeux que vous trouvez vraiment essentielles? On aimerait ça que vous partagiez ça avec nous. Vous pouvez nous écrire ça sur Facebook. On serait très intéressés.
Oui, effectivement. Puis, donc, pour conclure, là, si vous avez justement des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire, puis on va vous répondre dans un prochain épisode. Ça nous fait toujours plaisir. C'est toujours le fun d'avoir des questions des auditeurs. Donc, encore une fois, ben là, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.
Merci pour votre écoute et on se revoit dans le prochain épisode très bientôt.